Dimanche, le PKK a revendiqué un attentat à Ankara juste avant une session au Parlement turc. En réponse à cela, bien sûr, la Turquie a mis en garde dimanche les terroristes et mené des frappes aériennes contre le PKK dans le Kurdistan irakien. Vous êtes entretenu à ce sujet, Blaise, avec Rémi Daniel. Il est chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie. Voici ce qu'il en pense.
Rémi Daniel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Turquie, chercheur à l'INSS, le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un groupe armé considéré comme terroriste par la Turquie et certains pays occidentaux, a revendiqué l'attentat suicide commis hier matin à Ankara, la capitale turque, faisant 2 blessés. En réponse, la Turquie a mené des frappes aériennes contre le PKK au Kurdistan irakien. Alors pour commencer avec vous, si vous le voulez bien, pourrions-nous faire un rapide retour vers le passé et revenir sur le contexte entre le PKK et la Turquie ?
Oui, alors c'est un conflit qui dure depuis maintenant plusieurs décennies, hein, puisque le PKK, le mouvement des travailleurs du Kurdistan que vous évoquez, est né au milieu des années 80 et a commencé une lutte armée contre l'État turc à ce moment-là, qui a été particulièrement violente dans les années 90. À cette période, on parle d'un mouvement qui mène une vraie guerre de guérilla dans la zone kurde de Turquie et qui organise aussi des attentats dans les villes turques. Et c'est pour ça que le gouvernement turc, bien entendu, mais aussi d'autres pays occidentaux, comme vous l'avez dit, en particulier l'Union européenne ou les États-Unis, considèrent le PKK comme un mouvement terroriste aussi parce que c'est un mouvement qui est implanté dans la diaspora kurde en Europe où il exerce des activités qui sont souvent illégal. Alors, il faut quand même dire que le conflit entre le PKK et la Turquie a baissé en intensité dans les années 2000 puis 2010, mais il reste un conflit ouvert avec des affrontements qui sont d'ailleurs moins des affrontements de type attentat comme on a vu hier que la continuation de cette guerre de guérilla entre l'armée turque, le PKK et ses soutiens, soit dans le nord de la Syrie, soit dans le nord de l'Irak, soit sur le territoire turc.
Et quelles sont les raisons de ce conflit ?
Ce conflit est un conflit ethnique assez classique finalement. Hein. La population kurde de Turquie représente environ 20% de la population de Turquie. C'est une population qui n'a pas la même langue et qui dont l'identité nationale a été violemment étouffée par la République turque depuis la création de cette République. Et il y a eu, dans les années 60, 70, 80, la montée d'une revendication kurde en Turquie, qui est parfois une revendication d'indépendance, qui est souvent une revendication simplement de meilleurs droits, d'une meilleure reconnaissance au sein de la République turque, avec un certain succès. Et le PKK est finalement la partie la plus radicale de cette revendication, avec des gens qui se sont tournés vers la violence armée.
Venons-en maintenant à l'attentat d'hier. Il a eu une forte répercussion, cet attentat, et sous question, c'est dans les habitudes du PKK de commettre des attentats terroristes de la sorte ?
Alors, oui, on a vu le PKK ou d'autres groupes kurdes. Alors, il faut bien comprendre que dans ces cas-là, il y a une certaine incertitude toujours, puisque, par exemple, là, on sait que c'est la revendication de l'attentat a été faite sur un site proche du PKK, mais qui mentionne un sous-groupe du PKK, comme il s'agit de mouvements terroristes, clandestins. Il y a une certaine incertitude parmi les groupes, mais il est vrai que les groupes terroristes kurdes ont toujours essayé de frapper en Turquie, soit faire des attentats extrêmement visibles en ciblant des cibles très connues de la Turquie, soit cibler des organismes d'État, bien sûr, l'armée, la police, la fonction publique, en frappant le Parlement et la zone, en tout cas la zone de la plus politique de la capitale turque le jour de l'ouverture du Parlement. Finalement, le PKK accomplit ses 2 objectifs. Il fait parler de lui et il vise aussi les institutions étatiques turques.
Alors, la Turquie a répondu par des frappes aériennes. Leur objectif, c'est d'anéantir le groupe ?
La Turquie est lancée, comme je le disais, dans un combat, en effet, plutôt à mort. En tout cas, l'objectif est de rendre le PKK hors d'état de nuire. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que d'un côté, nous avons, et notamment depuis 2015, une radicalisation du conflit armé à nouveau entre la Turquie et le PKK, mais de l'autre, il y a déjà eu par le passé des tractations secrètes, l'arrivée même, les deux parties de ce conflit sont arrivées à un accord de cessez-le-feu plusieurs fois. Donc il ne s'agit pas forcément d'anéantir totalement le PKK et de tuer tous ses membres, mais de les faire, encore une fois, de les mettre hors état de nuire, de leur faire abandonner la lutte armée contre la Turquie et d'éliminer tous ceux qui continuent dans cette lutte armée.
Recep Tayyip Erdogan s'en est pris à l'Europe. Il a déclaré « Nous avons tenu toutes les promesses que nous avons faites à l'Union européenne, mais eux, ils n'ont tenu presque aucune des leurs. » La Turquie a-t-elle vraiment tout fait la Turquie a-t-elle vraiment fait tout ce que l'Europe lui demandait ?
Alors, il y a plusieurs tensions existantes entre l'Europe et la Turquie. Alors, la question kurde, notamment en Syrie, en est une, hein, puisque l'Europe voit dans les mouvements kurdes de Syrie qui sont affiliés au PKK des alliés, notamment ça a été des alliés importants contre Daesh, alors que la Turquie, finalement, voit dans ces groupes des terroristes dans la continuité de ce que nous avons évoqué plus tôt. Il y a aussi des tensions qui sont liées, par exemple, à la question des visas. Il s'avère qu'il y a vraiment une politique européenne de refuser les demandes de visa des citoyens turcs, hein, les chiffres sont assez clairs de ce point de vue-là, et cela agace beaucoup la Turquie d'Erdogan, qui a en effet l'impression de faire des efforts sur la question des réfugiés syriens qu'elle maintient dans son territoire, aussi sur la question de l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, et donc c'est cela qui explique une certaine frustration de la part de la Turquie et de Recep Tayyip Erdogan, cette impression que la Turquie, surtout ces dernières années, a fait des efforts vis-à-vis de l'Europe et qu'elle n'a pas finalement reçu ce qu'elle attendait des pays européens.
Pour revenir, on reviendra sur l'Union européenne tout à l'heure, mais vous avez parlé de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. C'était le but de la réunion d'hier avant l'attentat. Où en sommes-nous ?
Alors, bien entendu, l'attentat a remis les choses en suspens et c'est aussi peut-être pour Erdogan un moyen de jouer une dernière fois cette carte de l'entrée de la Suède et de la Finlande. Enfin, la Finlande est entrée dans l'OTAN, c'est une affaire faite. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces questions sont liées, puisque si on regarde bien une des raisons pour lesquelles Erdogan était un petit peu opposé, ou même franchement opposé à l'entrée de la Suède dans l'OTAN, c'était parce qu'il considérait que la Suède soutenait, ou en tout cas laissait les Kurdes, et notamment les gens liés au PKK, agir trop librement sur son territoire. Là, bien entendu, les questions se redeviennent liées avec cet attentat revendiqué par le PKK le jour où la Turquie devait adopter l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Malgré tout, l'esprit reste plutôt positif du point de vue de la Turquie. Une fois que Erdogan a donné son assentiment lors du sommet de Vilnius cet été, il semblerait que l'on continue à faire des progrès sur le dossier.
Alors, suivant ces déclarations où il s'en est pris à l'Europe, le président était très remonté. La Turquie dans l'Union européenne, pour l'instant, ça n'est plus d'actualité ?
Non, clairement, je pense que ça n'est plus d'actualité. Je crois qu'il n'y a pas de volonté réelle, finalement, dans aucun des deux côtés. Mais c'est vrai que symboliquement, il faut se souvenir que c'était un sujet très important, et même très important pour Erdogan au début de son mandat. Au début des années 2000, il avait vraiment œuvré de manière importante pour faire progresser ce dossier. Depuis, la Turquie s'est sentie humiliée par des choses comme par exemple l'entrée de Chypre dans l'Union européenne, par cette impression que l'Union européenne est peut-être un club d'États chrétiens qui n'acceptera jamais la Turquie, par aussi la réaction de certains pays, hein, comme la France de Nicolas Sarkozy, il faut le rappeler aussi. Du point de vue des Européens, il y a eu tellement de tensions avec la Turquie, qui par ailleurs n'est peut-être plus suffisamment démocratique pour pouvoir entrer dans l'Union européenne en 2023. On a envie, symboliquement pour marquer une amélioration des relations entre la Turquie et l'Union européenne, de reparler de ce processus d'adhésion turque. Mais je pense, et je pense que tout le monde en a bien conscience, que la route est encore très 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 longue. Si même l'adhésion est une possibilité, elle n'est pas une possibilité à court ou moyen terme.
Rémi Daniel, je rappelle que vous êtes spécialiste de la Turquie, chercheur à l'INSS. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.